Fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenues parce que t'es trop gentil.
On m'en fout ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant.
Bonjour à nos sportifs et nos sportives et bienvenue pour ce quatrième épisode de cette deuxième saison de Time Out. Avec moi dans ce quatrième épisode, j'ai Thibaut.
Salut.
Alima.
Salut.
Baptiste.
Salut.
Et Travis.
Bonjour.
Nous tournons cet épisode de Time Out la semaine du 9 février 2026 et on va revenir aujourd'hui sur l'Open d'Australie. Mais avant, nous allons commencer par l'habituel challenge des 10 questions. Aujourd'hui, c'est Baptiste qui va nous le présenter. Je rappelle la règle. C'est celui qui répond le plus rapidement qui gagne un point. C'est donc celui qui a le plus de points qui remporte le quiz du jour. Allez, c'est parti!
Première question. Citez-moi au moins un joueur qui n'a pas été sélectionné à la surprise générale pour le tournoi des 6 nations.
Penaud.
En effet, Fabien Galthié a choisi de ne pas prendre Damien Penaud, Gaël Ficou et Grégory Aldrit pour ce tournoi. Cela a été choquant pour de nombreux supporters, car les trois paraissent indispensables depuis la Coupe du Monde 2023. Deuxième question. Combien Carlos Alcaraz possède-t-il de grands chelems depuis sa victoire à l'Open d'Australie ?
6.
Non.
8.
Non.
14.
Non.
19.
Non.
7.
Exactement. L'Espagnol en est à son 7e sacre en tournoi majeur après sa finale remportée 3-1 contre Djokovic. Il devient le plus jeune joueur à posséder les 4 grands chelems dans son palmarès. Troisième question. Quelle nation a remporté les championnats d'Europe de handball ?
Danemark.
Alima et Antonin remportent un point chacun. Le Danemark à domicile s'est imposé contre l'Allemagne 34-27. Les Danois possèdent donc la triple couronne qui signifie avoir l'or mondial, olympique et européen. Quatrième question. Comment s'appelle le biathlète qui nous a quittés le 23 décembre 2025 ?
Putain, c'est le coéquipier de Button, j'ai plus son prénom. Ça finit un truc par Razor, hein, je crois. Ouais.
C'est un nom chelou, en tout cas.
Ouais, c'était...
Oui. Genre, il a 2 prénoms, 1 nom.
Je sais que c'est un nom tchèque.
C'est pas Buzzer ou...
Ah, ça commence par un B.
Ça commence par un B, ok. Y a pas un A derrière ?
Si, B-A.
Ouais, c'est B-A. Bakken.
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 Malheureusement, c'est Siver Guttorm Bakken qui est parti suite à l'utilisation d'un masque à hypoxie souvent utilisé pour les performances en altitude. Un hommage lui a été rendu lors de l'étape de Oberhof. Cinquième question, avec 3 points pour Antonin, 2 points pour Alima et Thibaut et Travis qui cumulent 0 points. Combien de temps a duré l'interruption de la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc.
15 minutes.
C'est 16.
Je mettrais plutôt 15.
16 minutes avant de tirer le pénalty.
Ouais.
Mais
bah en fait, 15. Ils sont revenus sur le terrain en 15 minutes.
Ouais.
Brahim Diaz a dû attendre 15 minutes avant de tirer son pénalty, après que les Sénégalais ont décidé de sortir du terrain avant de revenir. Ces derniers se sont imposés 1-0 grâce à un but de Pai Gay lors des prolongations. Sixième question. Dans quelle franchise le tricolore Gershon Yabusele a-t-il été transféré lors de la trade deadline ?
Chicago Bulls.
Tu as raison. Le français a été envoyé dans la mythique franchise des Chicago Bulls. D'autres trades ont eu lieu, avec celui de James Harden, de Trae Young ou même d'Anthony Davis. Septième question. Quelle est la première épreuve des Jeux Olympiques d'hiver à avoir débuté avant la cérémonie d'ouverture ?
Hockey sur glace.
Ok, ouais, oh, je l'avais aussi.
C'est pas ça.
Biathlon ?
Non.
Curling ?
Exactement. C'est le curling qui a commencé le mercredi 4 février alors que la cérémonie d'ouverture s'est déroulée le vendredi 6 février. Le snowboard et le hockey sur glace ont, eux, commencé le jeudi 5 février. Huitième question. Le français Fabio Quartararo va quitter Yamaha l'année prochaine pour rejoindre quelle équipe ?
Honda.
En effet, le champion du monde en 2021 va aller chez Honda après cette saison. Cela fait depuis 2019 qu'il est chez Yamaha, soit 8 saisons. On va faire un point sur les scores. Alima et Thibaut sont à 2 points, juste derrière Antonin qui a 5 points. Travis n'a toujours pas ouvert son compteur. Prochaine question. Combien de Français ont été sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Milan?
250.
Moins.
230.
Moins.
175.
Moins.
160.
Plus.
172.
Moins.
164.
Moins.
Bah, du coup, c'est 161, quoi.
Oui, c'est bien 161 Français qui ont fait le déplacement, en comptant aussi les remplaçants. Cela fait de la France le pays avec le plus de représentants lors de l'événement. Dernière question. Quelle équipe a remporté le Super Bowl?
Seattle.
Seattle, ouais. Seahawks.
C'est les Seahawks de Seattle qui ont remporté cette édition face aux Patriots sur le score de 13 à 29. C'est le deuxième sacre des Seattle, alors que c'est la première fois qu'un artiste non états-unien a performé à la mi-temps en la personne de Bad Bunny. Petite question bonus. Qui a remporté la première médaille française lors de ces Jeux Olympiques d'hiver?
Jean Monod, non?
Non.
Deloge.
Oui. En effet, Antonin a gagné avec 7 bonnes réponses. C'est bien Mathis Deloge qui a remporté la médaille d'argent sur le skiathlon qui signe la première médaille française lors de ces Jeux Olympiques. On va faire le podium de ce quiz. Antonin est donc premier avec la question bonus et 7 points. Thibaut est deuxième avec 3 points. Alima complète le podium avec 2 points. Travis est au pied du podium avec aucun point.
Bien, maintenant on va passer donc à notre débat commun et aujourd'hui on va revenir sur l'Open d'Australie. Premier grand tournoi de la saison de tennis, ce tournoi a eu lieu cette année du 12 janvier au 1er février 2026. Pour rappel, Carlos Alcaraz s'est imposé en finale contre le Serbe Novak Djokovic 3-7-1 en 5h27 de jeu. Tandis que chez les femmes, Elena Rybakina a gagné le tournoi contre Arina Sabalenka. Alors je voudrais savoir, chers chroniqueurs et chroniqueuses, qu'est-ce que vous retenez de ce premier grand tournoi de la saison?
J'ai trouvé que le tournoi a rendu tout ce qu'il devait rendre, c'est-à-dire un début de saison grandiose avec des surprises d'un côté, des belles performances, des belles confrontations, des finales qui sont déjà magiques avec la finale masculine, mais la féminine aussi qui a rendu tout ce qu'elle devait rendre. On a eu des surprises françaises qui ont fait plaisir, avec Arthur Géa qui a réussi à surprendre dès le premier tour alors qu'il n'était pas du tout annoncé par les pronostics et les bookmakers. Le seul point négatif que je retiendrai de tout ça, c'est le fait que les joueurs soient filmés tout le temps. C'est quelque chose que je trouve ça à la fois décevant, à la fois bien. Je suis un peu mitigé, mais je vois plutôt le côté négatif, c'est-à-dire qu'il y a une action où Coco Gauff se fait éliminer en quart ou en demi, en quart de finale, et en fait, elle veut aller dans les couloirs pour s'isoler, ne pas montrer l'exemple aux enfants de son énervement. Elle casse sa raquette dans le couloir, sauf que le problème, c'est que toutes les caméras sont allumées. Il y a une caméra qui se tourne, qui se rive sur elle, et l'action fait le tour des réseaux sociaux, et elle a dû en parler. Il y a Sabalenka qui en a parlé aussi, Swiatek, je crois, un peu aussi. Donc, ça commence à faire du bruit et je trouve que c'est malsain de ce côté-là. Mais de l'autre côté, on peut avoir de très belles images. J'ai vu des images entre coach et joueur qui paraissent très émouvants. Il y a des actions qui sont assez drôles avec Swiatek qui se fait refuser à la sécurité parce qu'elle n'a pas son accréditation. Le tournoi a rendu tout ce qu'il devait rendre. Les caméras ont rajouté un peu trop de piment, je pense.
D'ailleurs, sur les caméras, moi, je trouve que le fait qu'on rajoute des caméras, ça, ça enlève un peu l'humanité des gens. Genre, la Coco Gauff, le fait qu'on la filme alors qu'elle est énervée, elle vient de se faire éliminer, pour moi, ça n'a aucun sens de faire ça. Mais ouais, l'Open d'Australie, en tout cas, pour moi, il a révélé le mastodonte du tennis mondial pour moi. C'est Carlos Alcaraz. Il a remporté tous les grands chelems. Donc maintenant, c'est la voie royale pour lui. Hein, maintenant, le prochain objectif, c'est un nouveau Roland-Garros, comme il l'a dit en interview.
Totalement.
C'est clair.
D'ailleurs, ça me fait penser, je me rappelle maintenant du tournoi qui a eu lieu avant, juste avant l'Open d'Australie, le tournoi en point. J'ai bien aimé ce petit concept assez sympa entre pro et puis amateur.
Et puis ce qui est sympa aussi avec cette finale-là, en fait, le fait qu'il affronte Djokovic, je trouve qu'il y a vraiment ce truc-là de passation qui est incroyable. C'est un truc en fait, qu'on voit quasiment que dans le tennis, en fait. Et il y a vraiment ce truc-là de respect mutuel entre eux. En même temps, il y a une forme de presque de coopération, je sais pas comment dire, mais il y a un truc de... Ils savent les deux qu'ils peuvent s'apporter quelque chose en s'affrontant, qu'il y a une forme de... Ils se poussent vers le haut en même temps. Djokovic est quelqu'un qui dure quand même dans le milieu. Et franchement, j'ai beaucoup aimé la finale. Et même, il y a... Enfin, Carlos Alcaraz, je pense qu'il est vraiment parti pour durer. Enfin, on en avait parlé une fois, dans le premier time-out. Et franchement, il y a un truc de... c'est le maître du tennis actuel, quoi. Il est beaucoup trop fort.
En plus... Djokovic, c'était soit Alcaraz était le premier et le plus jeune joueur à aligner les 4 grands chelems, soit Djokovic remportait son 25e grand chelem. Et en fait, dans tous les cas, la finale s'annonçait historique.
Bon, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et c'est surtout, sur les caméras, ça rajoute de la télé-réalité, en fait. Limite, on n'est pas loin d'aller dans la chambre du joueur pour savoir ce qu'il mangeait, quoi. Heureusement qu'il n'y en avait pas. Et voilà, quoi. C'était un peu absurde, ce côté caméra partout, quel divertissement, voir un peu la vie privée du sportif, ses réactions, mais calma. C'est comme si demain, on met une caméra dans tous les vestiaires de foot.
Et ce qui commence à être un peu le cas déjà.
Ça se fait, oui, ça se fait.
Oui, mais il y en a beaucoup moins comparé à ce qu'on a vu là à l'Open d'Australie. Oui. C'est sur accord du club, il faut signer, c'est encore moins open que... Justement, l'Open d'Australie, pour faire un jeu de mots.
En fait, moi, je suis d'avis qu'une fois que tu sors du cours, que tu es dans le couloir, bah, en fait, c'est à côté. Enfin, je sais pas comment dire, mais pour moi, c'est de l'à côté. Alors après, sa colère, elle est légitime, certes, mais en fait, d'un autre côté, il n'y a pas à sortir ces images comme ça. À part pour l'enfoncer un peu, il n'y a rien de positif à faire ça.
C'est ça. Très clairement, je pense qu'il faudrait que les joueurs puissent avoir leur mot à dire de quand je veux être filmé, quand je veux pas être filmé. En cas de défaite, je veux pas être filmé, par exemple. Tout simplement. Parce que, je sais pas, tu fais un match où t'es pas content. Coco Golf, si elle aurait signé, elle aurait dit, si je perds, je veux pas être filmé, il y aurait pas eu ce drame. Mais par contre, les trucs que je trouve ça... Swiatek, le truc avec Swiatek qui se fait refuser une accréditation parce qu'elle a pas son accréd, elle attend 2 minutes devant les gardes, je trouve ça super marrant. Ouais, il y a du pour et du contre, c'est à voir comment ça va se découpiller pour les prochains Grand Slam ou même Master 1000.
Après, je trouve que c'est assez contradictoire cette histoire de caméra parce que Coco Gauff se plaint par exemple qu'elle a été filmée dans les vestiaires, mais en attendant, on fait des séries Netflix sur le tennis. Et là, on va même plus que filmer dans les vestiaires, c'est carrément, on va dans la vie privée des gens. Donc, c'est un peu bizarre d'avoir ce deux poids, deux mesures, en fait, face à cette question des caméras. Donc, je comprends que les athlètes ont aussi besoin, à un moment donné, d'être tranquilles et d'avoir leur vie privée, surtout quand ils viennent de perdre, malheureusement, un match. Mais après, il ne faut pas se plaindre aussi que vous gagnez de la visibilité. Et que vous êtes vu en plus sur Netflix.
Oui. En fait, ça rajoute ce côté romantique. Si derrière Coco Gauff, elle remporte un grand chelem, un autre grand chelem, et elle dira j'ai cassé ma raquette parce que j'étais dans l'émotion et derrière il y a eu une poussée d'adrénaline qui a fait que j'ai réussi à gagner un autre grand chelem. Donc, moi je suis plutôt d'avis que là, les caméras, ils sont là pour faire le buzz, mais c'est toujours à voir avec, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait de ces images. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est malsain.
C'était ça la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces images. Si on s'amuse dès qu'on a une image, on la diffuse, ça va être du voyeurisme à la fin.
Après, je sais pas si vraiment ces images elles vont la suivre dans le temps. Enfin, je pense que c'est plus anecdotique pour elle. Enfin, en tout cas, j'espère que ce sera plus anecdotique qu'autre chose.
Ouais, ça reste pas une tâche parce qu'il y a plein de tennismen qui ont déjà cassé leur raquette en plein match. Mais en fait, c'est comme si tu veux t'énerver, tu veux taper du poing sur un mur, tu veux taper quelque part. Et on te filme en train de faire ça, alors que t'es une athlète de haut niveau, t'es dans le top 5 mondial, t'es en grand chelem, tu fais partie des têtes d'affiche.
Et puis surtout que ça donne pas une bonne image aussi, le fait de casser une raquette aux plus jeunes qui veulent faire du tennis.
C'est ce qu'elle a expliqué elle-même, ouais. Oui.
Pour terminer ce débat, je voulais quand même faire un petit bilan des Français. Parce qu'en préparant l'émission, j'ai trouvé un petit truc un peu drôle. C'est que notre dernier Français, c'est Corentin Moutet, qui a perdu au troisième tour contre Alcaraz. Et notre meilleure Française, c'est Gracheva, qui a été éliminée au deuxième tour par Rybakina. C'est-à-dire que nos deux meilleurs Français ont été tout simplement éliminés par les deux futurs vainqueurs du tournoi. Donc quand j'ai en préparant l'émission, ça m'a fait un peu rire. Sinon, côté français, bon, ça a été quand même un tournoi assez compliqué en simple. On peut quand même noter qu'en double mixte, on a Manuel Guinard et Kristina Mladenovic qui ont perdu en finale contre la paire australienne Olivia Gadecki et John Peers. Et à noter aussi la victoire de la jeune Française de 16 ans au tournoi junior de Xena Efremova face à la Russe Ekaterina Pitsina, pardon pour la prononciation, en 2-7. Donc, quand même, on a quand même gagné un petit trophée à cette Open d'Australie.
Je pense que si on regarde du côté jeune, il y a la Française qui a remporté l'Open d'Australie, mais il y a aussi un autre jeune qui est en train de monter en force. Je n'ai plus son prénom.
Moïse, c'est pas Kouami.
J'ai plus son...
Je ne sais pas s'il a participé à l'Open d'Australie.
Il n'a pas participé à l'Open d'Australie, mais il monte vraiment en force. Mmh. Genre,
ouais, le jeune de 16 ans.
Oui.
Ouais, j'ai plus son nom. Mais en plus, je crois que c'est un nom composé. Si tu le retrouves.
Mais ça peut être très fort. Et par exemple, il peut, je pense que ça serait très beau qu'il gagne Roland-Garros à domicile. Par exemple.
Mmh. C'est Moïse Kouame qui a... Il a 16 ans. Il a remporté un premier ATP, si je ne me trompe pas. Oui, il n'y a pas longtemps. C'est l'ATP 250 à Montpellier que Moïse Kouame a remporté en début d'année.
Donc pareil, qui sera à suivre aussi cette année chez les jeunes, encore. Mais plutôt de bon augure quand même pour la suite, pour lui. On va maintenant passer aux traditionnelles chroniques avec aujourd'hui Thibaut, Travis et moi qui allons vous en présenter une. Et on va commencer par Thibaut.
Salut à tous, je vais vous parler aujourd'hui de l'Olympique Lyonnais et de sa bonne forme. Il y a 7 mois, l'Olympique Lyonnais est rétrogradé administrativement par la DNCG. Grâce à deux personnes, Madame Kang et Jean-Pierre Comte, l'Olympique Lyonnais est sauvé en appel par la DNCG car des promesses et des ventes y sont effectuées lors du mercato. Notamment, le 14 juin 2025, la DNCG acte la Ligue 2 pour l'Olympique Lyonnais. Tous les supporters lyonnais vivent un cauchemar et se disent « le club est mort, on va pas être en Ligue 2, mais plus bas ». Ensuite, grâce à cette annonce, John Textor est démis de ses fonctions par Michel Kang et Arès, car ces deux personnes injectent de l'argent et cela permet à que John Textor se fasse évictionner de l'Olympique Lyonnais. Suite à cela, Madame Kang promet que le sportif sera de nouveau et que John Textor n'interviendra plus au sein de ce même mercato, des achats sont effectués de joueurs, notamment Pavel Schultz, 7,5 millions, Tyler Morton, à 10 millions d'euros provenance de Liverpool. Mais aussi, vu comme la situation financière de l'Olympique Lyonnais est au plus bas, des ventes surprises sont obligatoires. Tous les supporters pensaient que ça allait être Malik Fofana qui allait être vendu, mais par manque d'offres, c'est finalement Georges Mikotadze, lors de la dernière journée de Mercato, se fait vendre pour 32 millions à Villarreal. Suite à ce Mercato, les supporters lyonnais, tout d'abord, étaient en mode « qui sont ces joueurs ?» Afonso Moreira, Pavel Schultz, Karabec, Martin Satriano. Le début de saison est plutôt pas mal. Puis arrive le mois de novembre, où tout devient compliqué. Le Paris FC, on gagne 3-0, puis il y a ce rouge de Abner, Vinicius. Du coup, Paris FC remonte à 3-3. Ensuite, on enchaîne face à Brest, Adbourg, qui est arrivé en joker médical. Il prend un rouge dès la 7e minute, donc le match est mort. Ça finit à 0-0. Puis face à Auxerre, on se demande comment ça va se passer. Bah, ça va finir en 0-0. Le mois de novembre passe, puis arrive la trêve hivernale qui fait un grand bien au club car l'Olympique Lyonnais va commencer à activer sur le mercato hivernal et notamment avec l'arrivée d'Hendrick. Hendrick, c'est un joueur de 19 ans de nationalité brésilienne qui vient du Real Madrid qui a besoin de temps de jeu et voit qu'à l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas de numéro 9. Donc il se dit, je viens, peu importe mon temps de jeu, je sais que je serai titulaire tout le temps. Et accompagné de cela, il y a juste en départ les prêts des deux jeunes Alejandro Gomez-Rodriguez et Molebe. Et aussi, il y a l'arrivée de Yaremchuk, le numéro 9, qu'on devait recruter l'été précédent. Actuellement, l'Olympique Lyonnais est en forme. 12 victoires consécutives, de compétitions confondues. C'est une première pour l'Olympique Lyonnais depuis la période d'août-novembre 2006, où l'Olympique Lyonnais avait effectué 14 victoires d'affilée et était champion à la fin de cette année-là. Et enfin, je voudrais remercier M. Paulo Fonseca, qui, grâce à lui, je pense, l'Olympique Lyonnais revit, car il a bricolé avec des bouts de bois. Je pense que l'Olympique Lyonnais, comme le disait Barthes, est une formidable raison d'être heureux. Et ma question pour le débat, c'est qu'est-ce que vous pensez des travaux de M. Fonseca et de la cellule de recrutement depuis le départ de John Textor?
Moi, je vais commencer par réagir sur le fait qu'en effet, le club, il revient de nulle part. Là. Enfin, clairement, les deux dernières saisons, elles ont été remplies de montagnes russes. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a quand même un effet de surprise. En tout cas, pour les supporters lyonnais, je pense que ce qu'il doit faire en premier, c'est remercier la cellule de recrutement qui a fait un travail monstrueux. Tu as parlé de Pavel Šulc, je pense que c'est celui dont on peut le plus parler parce que c'est actuellement le meilleur buteur donc, de l'Olympique lyonnais cette saison. Et c'est celui qui, me semble, a le plus de total buts et passes décisives.
Ouais, il a 12 buts.
Voilà.
Compétition confondue.
Il recrute quand même un très bon gardien, Dominique Greif, qui est vraiment... incroyable. Alors ils ont une très bonne doublure aussi avec Rémi Descamps qui avait commencé en effet donc sur les premiers matchs, les 4 premiers matchs c'est lui qui est titulaire. Il y a 3 victoires avec 3 clean sheets plus bon la défaite contre Rennes et puis ensuite il est blessé donc ça laisse la place à Dominique Greif d'arriver puis il fait quand même de très bons matchs en Europa, de très bons matchs en Coupe de France donc il y a quand même un équilibre entre les gardiens. Moi, si je devrais pas quand même parler d'une recrue qui est arrivée cet été, genre je pense Afonso Moreira. Pour moi, c'est mon joueur préféré depuis qu'il est arrivé. Dans le sens de Moreira, pourquoi? Parce qu'on sent que c'est un joueur qui a une envie incroyable. Il y a un peu ce truc d'insouciance, t'arrives dans un club, tu viens de la réserve du Sporting, tu sens que le dépistage a été fait très très bien par la cellule de recrutement encore une fois. Et puis sur le terrain, il est toujours à 100%, j'ai l'impression. C'est quand même un joueur qui symbolise tout ça. Et puis je tiens quand même à préciser, et après je vous laisserai la parole là-dessus, et peut-être je rebondirai sur d'autres trucs après, mais il y a quand même un retour à la base avec le centre de formation. Et ça, je trouve que c'est quand même incroyable. Je pense à Kalis Mera, qui est quand même déjà, il me semble, à 2 passes décisives, marqué en Ligue Europa aussi. Enfin, il y a Rémi Imbert qui commence à monter progressivement. Et puis, il y a quand même Adil Hamdani, qui il fait une entrée, une passe décisive. Oui, enfin, ouais. C'est pas mal du tout.
Premier ballon, double contact, pas de souci.
Je tiens à préciser qu'il y a aussi un jeune du centre de formation qui a été vendu cet hiver, Barisic. Théo Barisic, en effet, pour la Croatie.
Moi, je crois que je vais être un peu trop chauvin. Parce que vraiment, pour parler de l'OL, je commencerai par dire que j'y croyais plus du tout. On était été 2025. On annonce la rétrogradation en Ligue 2. Je suis en mode, ça va être impossible de sortir de ce merdier. La solution même de évincer Textor est très loin parce que Textor s'accroche, et ça, oui. Je pense, on l'a pas assez mis en évidence, mais c'est vraiment, même là, au sein d'Eagle, Arès, a joué un rôle pour évincer, mais c'était aussi dans leur intérêt, parce que ils veulent pas perdre leur argent. C'est eux qui ont financé Textor pour racheter le club, pour acheter les parts d'Olas. Eux, leur but, là, c'est de réassainir le club. C'est pour ça qu'on a notamment Michael Garlinger, le directeur football... de l'OL, qui a parlé de faire un redressement économique à l'OL à travers notamment la masse salariale. On a parlé de notamment la cellule sportive avec Mathieu Louis-Jean, qui devait bosser sur des profils à moindre coût, mais qui pouvait avoir une plus-value sportive immédiate. Et c'est franchement énorme ce qu'ils ont réussi à trouver. Moi, celui qui me choque le plus, c'est Pavel Šulc. Ce mec, il est tellement atypique. Déjà, il a une dégaine. Genre, il respire quelque chose d'atypique. C'est le mot pour le caractériser, c'est atypique. Même sur le terrain, c'est un mec... On peut ne pas le voir du tout pendant un match, être fantomatique. Il peut d'un coup avoir un éclair de génie et marquer un but de 20 mètres ou avoir le but face à Nantes. C'est digne de Pavel Šulc. Il met son pied, Oui. Sur un centre de sur une frappe de Afonso Moreira et genre il a le bon pied, la bonne technique, c'est un peu, on le compare souvent à Thomas Müller, mais c'est pour moi vraiment un mec atypique. En tout cas, je trouve qu'on n'a jamais eu un profil comme lui au club et qui stade autant, même si son apport dans le jeu, je trouve il est très
Il n'est pas forcément au cœur du jeu.
Voilà, il n'est pas au cœur du jeu, c'est pas un Cherki. C'est pas ce qu'on avait avant, un Cherki qui va participer, délimiter le jeu. Il apporte des stats et c'est exactement le joueur qu'il faut dans ce duel-là, en tout cas. Aussi, faut parler que cet hiver, on a eu Hendrik qui est arrivé, oui, comme tu l'as dit. Mais pendant 4 mois, Paulo Fonseca, il a dû bosser sans numéro 9. Oui, et il l'a fait avec brio parce que, genre, il a inventé des systèmes. Il a demandé, par exemple, à Hamner d'être plus offensif. Ouais, il a demandé à des joueurs comme Afonso Moreira d'être faire les efforts défensifs. Il demandait à tout le monde. C'était ça, même le critère un peu qu'il y avait une symbiose autour du club, c'était on bosse tous dans le même sens et on tire tous, on va tous vers l'avant. Il y a un jeu très vertical, mais aussi, c'est un peu mon avis sur Paulo Fonseca, je trouve que c'est un coach qui s'est vraiment amélioré, je trouve, parce qu'à Lille, il avait toujours ce jeu très vertical, jeu léché et tout, mais il avait tendance à avoir des lectures de match très moyennes, je trouve, notamment l'année dernière face à Manchester United. Sa lecture de match, Paulo Akuoku, c'était pas... Paulo Fonseca, il avait vraiment bricolé pendant ces 4 mois. Pour moi, il s'est amélioré grâce grâce à sa suspension de 9 mois par la LFP. Ça lui a permis, je trouve, de se remettre en question sur le fait de prendre les matchs plus à froid, on va dire. Même son approche tactique, je crois que j'ai jamais vu ça à l'OL. Une approche tactique aussi parfaite. On a l'impression que tout est préparé à l'avance. Les joueurs savent où ils doivent aller. Et notamment, on a des leaders de vestiaire qui suivent le projet, que ce soit Moussa Niakate, Corentin Tolisso. On a des...
Clinton Mata.
Ouais, Clinton Mata.
Même Tagliafico, ils ont réussi à le faire rester quand même.
Ouais, Tagliafico, moi, je trouve ça énorme. Je trouve ça, c'est... J'avais vu, là, dans les interviews du club, que Paulo Fonseca, il parlait de prolongation et tout. Moi, je trouve que ce serait le plus important, c'est de prolonger Paulo Fonseca, parce que c'est lui qui va te garantir une sérénité au club, qu'importe ce qui se passe, qu'importe tout l'effectif doit être vendu cet été.
Juste pour rebondir sur ce que tu as dit, Trévis, moi j'ai l'impression juste que Pavel Souch est devenu le nouveau numéro 9 de Lyon. C'est vraiment ça. Hein. Et par rapport à Paulo Fonseca, il faut quand même rappeler aussi qu'il a été suspendu.
C'est vrai que j'ai oublié de le dire dans mon truc.
Il était quand même encore suspendu donc en début de saison. Donc, franchement, c'est un gros boulot qu'il a fait pour Fonseca et le centre de recrutement. Est-ce que Baptiste, tu veux rajouter quelque chose sur l'OL ?
Pour moi, actuellement, même si on dit souvent qu'il ne faut pas s'attacher aux joueurs, les joueurs sont tellement attachants en fait, à suivre. Quand tu regardes Moreira, quand tu regardes Sulk, quand tu regardes... Moi, je suis beaucoup attaché à Kluivert, bizarrement. Je trouve que son jeu, en fait, j'étais persuadé qu'il pouvait faire quelque chose et ses premiers matchs ne l'ont pas confirmé, mais par la suite, on a très bien vu. Le recrutement est tellement intelligent parce qu'en fait, à chaque fois, on va chercher des joueurs qui peuvent s'intégrer facilement dans le groupe. C'est-à-dire que même si on regarde nos recrutements de cet hiver, nous avons le prêt de Noam Kamara du PSG qui peut faire un renforcement défensif. Nous avons Noah Narte qui est arrivé, qui a joué un match, qui a marqué un but. Nous avons eu Hendrix, Yaremchuk, qui est arrivé en provenance de l'Olympico en prêt. L'Olympiakos en prêt. Et donc, le recrutement est tellement intelligent et Paulo Fonseca choisit les joueurs qu'il veut. Et ça, c'est cool parce que je suis pas sûr que dans tous les clubs, c'est l'entraîneur qui dit « je veux tel joueur, je veux tel joueur, je veux tel joueur ». Là, c'est lui qui les appelle directement et c'est ça qui marche. C'est-à-dire qu'il leur a vendu un projet cet été, un projet qui partait de rien. Et il a réussi à construire quelque chose de magnifique.
Maintenant, place à Antonin qui va vous évoquer les championnats d'Europe de handball.
En ce moment, il fait plutôt froid, vous ne trouvez pas? Et si on allait se réchauffer à l'intérieur? Aujourd'hui, je vous propose qu'on aille jeter un petit coup d'œil au monde de Karl Schellens, professeur d'éducation physique allemand, qui a notamment créé le handball qui était au départ à 11 et sur gazon pour la petite histoire. Et oui, aujourd'hui, on va revenir sur le championnat d'Europe de handball masculin 2026, qui a eu lieu du 15 janvier au 1er février au Danemark, en Suède et en Norvège. Pour la remise en contexte, on sort d'une année 2025 où le Danemark a remporté le championnat du monde contre la Croatie, alors que la France a terminé 3e. Les Danois ont également remporté l'année précédente les Jeux Olympiques contre l'Allemagne. Quelques mois plus tôt, les Bleus avaient remporté le championnat d'Europe contre cette même équipe du Danemark en Allemagne et a donc remis son titre en jeu pour cette 17e édition dans les pays scandinaves. Le Danemark est ainsi une grande favorite de la compétition à domicile, même si la France, l'Allemagne, la Suède, également à domicile, vont tenter de faire chuter l'ogre danois. Pour les outsiders, on retrouve l'Espagne, 3e des derniers JO, la Croatie, vice-champion du monde, mais aussi l'Islande, qui a été finaliste du tournoi de France contre les Bleus en préparation de cet Euro. Au niveau de l'organisation du tournoi, le tour préliminaire compte 6 groupes qui seront répartis dans les 3 pays. Puis, il y aura 2 groupes pour le tour principal qui auront lieu en Suède et au Danemark, et enfin la phase finale qui aura lieu au Danemark. Maintenant que le contexte est posé, revenons dans un premier temps sur le tour préliminaire. Et sans grande surprise, on retrouve les favoris aux premières places, même si le Danemark a terminé 2e du groupe B après une défaite contre le Portugal 29-31, mais sans danger pour la qualification au tour principal. C'est justement au tour principal que les choses ont commencé à se corser. Dès la première journée, les Français sont battus par le Danemark 29-32, malgré une très bonne première période des tricolores. Lors de la deuxième journée, c'est l'Islande qui a créé la surprise en battant la Suède dans le deuxième groupe, pourtant à domicile, sur le large score de 35-27. À la troisième journée, rebelote pour les Français qui sont battus par une surprenante équipe d'Espagne, qui finira pourtant dernière de son groupe sur le score de 36-32. Toutefois, la France peut toujours croire à une qualification en demi-finale grâce à la victoire des Danois 31-26 contre l'Allemagne. Mais les Bleus doivent battre le gourou de leur quart de finale à domicile lors des JO de Paris, la Nationalmannschaft, lors de la dernière journée. La marche était trop haute et la France perd 38-34 contre une Allemagne surpuissante en première période. La France quitte déjà la compétition à une décevante 4e place dans le tour principal après que le Portugal lui est passé devant grâce à un nul contre la Norvège à la 4e journée et une victoire contre l'Espagne à la dernière journée. Dans l'autre groupe, alors que la Croatie a pris les devants dans le groupe grâce au nul de la Suède et de l'Islande lors de la 3e journée, les Croates sont allés chercher la victoire pour assurer leur qualification. Mais le plus important était de savoir qui de l'Islande ou de la Suède allait passer en demi dans un duel à distance. Alors que les Suédois ont atomisé les Suisses 21-34, les Islandais n'ont eu aucun mal à se débarrasser de la Slovénie, se qualifiant grâce à la victoire surprise de la 2e journée face aux Suédois. Les demi-finales ont ainsi opposé l'Allemagne à la Croatie et le Danemark à l'Islande. Grande surprise de ces demi-finales, les Islandais ont longtemps tenu tête haute aux favoris danois avant de craquer 31-28. Quelques heures avant, les Allemands ont battu sur le même score les Croates. Les Croates se consoleront tout de même avec une médaille de bronze après avoir dominé tout le long, même si les Islandais ont bien failli revenir en toute fin de match, mais trop tard pour espérer une 3e place. Défaite 33-34. Mais nous y voilà. Dimanche 1er février 2026. 18h, au Jacks Bank Boxen, à Herning au Danemark. Dans une salle largement acquise à la cause des Danois. L'arbitre monténégrin donne le coup d'envoi du remake de la finale des Jeux Olympiques de 2024. Alors qu'à la mi-temps de la finale des JO, les Allemands avaient été largement dominés par les Danois, cette finale 2026 est beaucoup plus serrée. L'écart ne dépasse jamais les 2 buts d'avance pour les Danois, qui dominent tout de même cette première mi-temps. En début de seconde mi-temps, les Danois et les Allemands continuent à faire jeu égal, même si les Danois continuent de mener de plus 3. Mais il faut attendre les 10 dernières minutes pour que le gros break soit fait. D'abord à plus 4, puis plus 5 à 2 minutes de la fin du match, les Allemands savent qu'ils ne pourront pas revenir et encaissent encore 2 buts pour un score final de 34-27. Les Allemands regretteront leurs fautes commises, qui ont donné 5 jets à 7 mètres aux Danois, dont 4 réussis, 2 cartons rouges aussi regrettables, et une efficacité un poil plus faible, ainsi que 9 pertes de balles, qui n'ont pas permis aux Allemands de recoller au plus 2 et au plus 3 des Danois. Côté Danois, il faut féliciter la performance de Simon Pitlick, meilleur buteur de la finale avec 8 buts, ainsi que Mathias Gidsel et Johan Hansen avec 7 buts chacun. Les Allemands sont ainsi tombés sur plus fort qu'eux, et qui plus est dans une ambiance 100% danoise, qui a pu fêter dignement le 3e titre européen d'un pays qui a réalisé le même exploit que nos Bleus,
celui de remporter les trois titres les plus importants, coup sur coup, champion olympique, champion du monde et champion d'Europe. Alors j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cet Euro masculin avec le niveau stratosphérique des Danois. Qu'est-ce que vous avez pensé du niveau de la France et comment vous les voyez réagir après cette nouvelle mésaventure ?
C'est un peu rageant parce que quand tu sais que c'est quand même un sport où il y a une domination depuis des années dans à peu près toutes les compétitions, que tu as des joueurs qui quand même sont à l'échelle mondiale, c'est pas n'importe qui quand même. Donc je suis un peu déçue. Après, je pense qu'il y a quand même une forme de vraie compétition qui s'installe avec le Danemark qui, depuis quand même plusieurs années, même avec les féminines en vrai, il y a ce truc-là qui s'est installé aussi. Et je pense simplement que pour rebondir, va falloir simplement gagner la prochaine compétition. En fait, il n'y a pas d'autre choix possible. Tu ne peux pas te permettre de refaire un échec comme ça. Ça n'avait déjà pas été fameux les fois précédentes. Donc non, là, franchement, je n'ai pas forcément été convaincue par ce que j'ai vu. De toutes les images que j'ai vues de ce championnat, pour la France en tout cas, je n'ai pas été convaincue du tout. Le Danemark, je pense qu'ils sont quand même partis pour durer aussi. À voir.
Je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, on est clairement, je pense, sur une période de transition pour les Français. C'est-à-dire que là, il y a les Karabatis qui commencent à faire leur temps. On a des jeunes qui essayent de trouver leur marque. Et donc, les résultats ne sont pas ceux attendus. Mais si on regarde en étant plus objectif, on aurait pu prétendre à un peu mieux. On aurait pu prendre un dernier match pour la 5e place, par exemple. C'est l'expérience qui paye du côté des Danois. Parce que quand je regarde les groupes des phases finales, en fait, je trouve, on est tombé sur un groupe qui était très, très, très relevé. Comparé à l'autre groupe, j'ai regardé l'organisation. En fait, ils ont pris les trois premiers du pool AB, les deux premiers du pool ABC et les deux premiers du groupe DEF. Mais au final, l'écart de niveau, c'est quand même fait ressortir quand tu regardes la finale. C'est 100% de notre pool. C'est les Allemands et les Danois. Donc, les Français... Je trouve pas ça décevant, je trouve que peut-être il faudrait faire bouger un peu les choses, mais ça va pas être simple. Je sais pas combien de temps que le sélectionneur il est là, mais peut-être essayer de faire tourner, trouver d'autres options, ou peut-être complètement jouer sur la jeunesse, mais à voir.
Moi je pense qu'on est vraiment, comme tu l'as dit, sur une transition entre l'ancienne génération dorée et cette nouvelle génération. Et je pense que voilà, l'équipe de France a encore du mal à trouver ses marques... pour relancer une nouvelle dynamique. Donc, c'est sûr que ça fait déjà deux tournois qu'on rate, parce qu'on peut le dire, hein, c'est vraiment deux tournois ratés. Les JO et donc le championnat d'Europe, même si on a quand même remporté le championnat d'Europe en 2024, c'est malheureusement un peu dommage pour cette équipe de France, qui est quand même, dans l'histoire, une des toutes meilleures équipes du monde. Mais bon, voilà, malheureusement, il y avait beaucoup trop fort, effectivement, au niveau de l'organisation. En plus, on a eu des groupes assez relevés. Donc, c'est sûr que quand dans l'autre groupe, il y a la Croatie, l'Islande et la Suède qui font un peu office de favoris. Mais bon, ce n'est pas les meilleures équipes non plus du monde. Hein, ça a plus des outsiders, même si la Croatie est vice-champion du monde. C'est sûr qu'on n'a pas été avantagé par le tirage au sort. Mais c'est comme ça. Pour pouvoir battre ces équipes, et notamment le Danemark, qui est vraiment pour le coup très très forte en ce moment.
Quand tu regardes au final dans les groupes, là, la France n'a pas pu réaffronter la Norvège, et je pense que ça aurait été plus intéressant de réaffronter 5 nouvelles équipes plutôt que 4 équipes et un match déjà joué face à la Norvège. Je sais pas, ce fait de retourner dans la même poule de quelqu'un et que par exemple nous et la France et la Norvège puissent pas se réaffronter, je trouve ça un peu, ça gâche un peu, c'est-à-dire que t'as déjà un match qui est joué d'avance, quoi.
Après, l'avantage aussi du groupe relevé, c'est que si tu es champion du monde, tu pourras dire que tu l'as mérité, quoi. Parce que tu auras vraiment battu, pour le coup, les meilleures équipes. Forcément. C'est sûr que c'est dommage qu'on n'ait pas pu affronter la Norvège. On a quand même vu des beaux matchs face à l'Allemagne, face au Danemark. Ça, c'était quand même plutôt sympa. Et malheureusement, c'est comme ça. On espère que ça ira mieux quand même pour cette équipe de France. En tout cas, chez les hommes. Bien, maintenant, on va revenir au foot, et notamment à la Ligue des Champions, puisque Travis va nous parler de l'élimination de l'Olympique de Marseille, qui a été éliminée à distance par Benfica.
La folie, c'est de refaire la même chose et d'espérer un résultat différent. Cela rappellera des souvenirs à certains, puisque cette déclaration a été prononcée par John Textor le 14 novembre 2023. Et pour cette 8e et dernière journée de la phase de Ligue des Champions 2025-2026, qui a eu lieu le mercredi 28 janvier 2026, cette phrase a pris des airs de prophétie. On a vécu un multiplex qui n'était plus un sport, mais une séance de torture psychologique. Le verdict est tombé, historique pour les uns, et d'une cruauté sans nom pour l'Olympique de Marseille. Tout commence en Belgique, à Bruges. L'équation est pourtant simple, Marseille doit gagner pour ne dépendre de personne. Mais très vite, on comprend que l'OM a oublié sa calculette au vestiaire. Dès la première mi-temps, le piège se referme. Diacon surgit, but 1-0. Et soudain, le silence, ce silence lourd où les soirs où l'on sent au fond des tripes que rien ne va tourner rond. Pendant 45 minutes en seconde période, on a regardé 11 joueurs courir après un résultat sans pour autant concrétiser la moindre occasion. Pas de révolte, pas d'étincelle. À l'image d'un Greenwood fantomatique ou d'un De Zerbi complètement désabusé sur son banc. Une sensation de déjà-vu, cette incapacité chronique à forcer le destin quand il devient un peu trop lourd. Et pourtant, à côté, le multiplex s'affole. On vit l'enfer du rafraîchissement. 22h18, Bodø/Glimt, concurrent direct, marque. Marseille est 25e, ils sont dehors. 22h21, Trincao égalise pour le Sporting face à Bilbao. Miracle, Marseille repasse à la 24e place. À 30 minutes de la fin, malgré leur néant footballistique, les Marseillais sont virtuellement qualifiés. Tout tient à un fil de soie. Fin du match à Bruges, l'OM s'incline, les joueurs s'arrêtent. Et là, on bascule dans un surréalisme. Le stade de Bruges affiche en grand sur ses écrans géants. Félicitations à l'OM pour sa qualification. Le destin de l'OM, pourtant, était en train de se jouer à 1500 km de là, du côté de Lisbonne. Benfica reçoit le Real Madrid. On parle du Real, l'Armada, les stars mondiales, notamment Kylian Mbappé ou Jude Bellingham, qui normalement ne tremblent pas. Mais ce jour-là, le Real a été indécent d'arrogance. Ils gèrent, ils ronronnent, ils finissent même à 9 contre 11, mais ils ne tuent pas le match. On joue la 98e minute. José Mourinho, le Special One, ordonne alors à son gardien, Anatoly Trubin, de monter dans la surface adverse. Le portier traverse tout le terrain, s'élève au milieu des stars madrilènes et propulse le ballon la tête au fond des filets sur un coup franc parfaitement tiré. Le Luz explose et ce cri de joie au Portugal, c'est le coup de poignard final pour l'OM. En une seconde, le but d'un gardien transforme les félicitations de l'écran géant de Bruges en la blague la plus cruelle de l'histoire du club. 23h03, Marseille est 25e officiellement éliminé. Le bilan de cette J8 pour les clubs français est brutal. Monaco passe, Paris loupe le top 8, mais c'est Marseille qui reste sur le carreau. L'humiliation est totale quand on regarde le classement. Même le petit pousset chypriote Paphos réussit l'exploit de se qualifier en montrant plus de cœur que les Olympiens. Voir ce club que personne n'attendait figurer parmi les qualifiés alors que l'OM rentre à la maison est le symbole parfait de ce fiasco. On nous parle souvent de Marseille à jamais les premiers, mais aujourd'hui, est-ce que ce serait pas Marseille à jamais les premiers à se saborder ? Je lance ce débat comme ça. Est-ce que l'instabilité autour de l'OM, c'est pas ça qui ronge le club sur le plan européen ?
Alors, les premiers à se saborder, je ne sais pas. Parce que dans le même temps, on a quand même Paris qui s'est sabordé aussi, puisqu'ils étaient techniquement qualifiés dans le top 8 pratiquement toute la compétition. Et à la dernière journée, ils se retrouvent en barrage. Donc moi, j'appelle ça aussi se saborder pour les Parisiens. Parce que c'est quand même aussi un peu un aveu d'échec pour eux. Même si Luis Enrique, s'en fichait totalement. Donc moi, pour moi, c'est un peu dommage qu'ils aient pas réussi à se qualifier en 8e de finale. Après, c'est sûr que par contre, c'est quand même un énorme aveu d'échec pour De Zerbi, qui d'ailleurs, au moment où on tourne, vient juste d'être licencié de Marseille. Et donc pour l'OM, qui en plus avait besoin que d'un seul point pour se qualifier sur les deux dernières journées, et qui en plus, selon Opta, avait quand même encore 94,6% de chances de se qualifier lors de la dernière journée. C'est d'ailleurs là qu'on voit que le foot n'est pas que de la data et des stats. 3-0 à domicile contre Liverpool, 3-0 à Bruges, c'est quand même à se demander si on a vu le Marseille qui avait quand même perdu avec les honneurs au Real Madrid, ou celui qui est allé chercher aussi une victoire incroyable à l'Union Saint-Gilloise, qui est pourtant leader du championnat belge, 3-2. C'est quand même assez surprenant de voir ce changement si radical. Et en plus, là, on tourne juste après donc, le classique, hein, où les Marseillais ont vécu le score le plus large de l'histoire des classiques, avec donc, une défaite 5-0. C'est quand même très triste pour ce club, malheureusement, qui pourtant avait quand même de l'ambition et des joueurs qui aurait pu permettre d'aller plus loin dans cette compétition.
Oui, et en plus, pour rappeler, il y a aussi cette défaite cruelle face à l'Atalanta 1-0, où il y a eu un pénalty à la toute fin qui avait condamné les Marseillais. Mais je trouve que, en fait, genre, c'était prévisible, et ce changement brutal, comme tu dis, entre deux matchs différents, notamment là, on avait l'Union Saint-Gilloise ou le Real Madrid, d'un côté Liverpool et Bruges. On a aussi eu en Ligue 1 cet aveu d'échec. C'est un peu répercuté aussi sur la Ligue 1, quand on voyait qu'ils arrivent à gagner face à Lens, qui joue le titre, ils les atomisent 3-0. Et derrière, ils arrivent à perdre contre des équipes comme Angers. Ils arrivent à perdre
2-0 contre Nantes.
Ouais, 2-0 contre Nantes.
Bon, après, t'es réduit à 9, mais...
Voilà, c'est... Moi, je trouve qu'il manque aussi, et ça, c'est un point à rajouter, qu'il manque de leaders, de grands moments qui vont porter, notamment là, à une qualification, par exemple, européenne.
Mmh. Je suis moyennement d'accord avec ça. Tu prends des joueurs d'expérience, tu prends Pavard qui est censé être au top, il est pas au top du tout. Tu prends Aubameyang qui a une expérience de fou malade et là pour le coup ça a pas marché. Aguerd qui est censé bien marcher aussi, bon bah je sais plus s'il était absent contre Bruges ou pas, mais il a été absent en tout cas contre Paris. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont censées porter l'équipe, c'est pas le cas. Pour moi, ce qui manque, c'est un côté marseillais. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un truc qu'il y avait au moment de leur épopée en Ligue Europa contre l'Atlético de Madrid, quand ils arrivent en finale. Bon, ok, ils perdent 3-0 contre l'Atlético, mais juste avant ça, t'as quand même une équipe qui, pour moi, ressemble à quelque chose, et à ce moment-là, vraiment, j'étais absolument fan de cette équipe. Il y avait vraiment un truc de t'as Thauvin, t'as Dimitri Payet, t'as Maxime Lopez, il y a des joueurs, il y a Adil Rami, il y a des joueurs qui portent, il y a Luis Gustavo, je crois encore, enfin, il y a des joueurs qui portent le truc. Là, c'est compliqué. Pareil, enfin, le Real, c'est pour moi, ce qu'ils ont montré à ce match-là, c'était incroyable. Enfin, si tout était normal dans ce match-là, tu avais la victoire ou à minimal ou minimal le nul. Pareil, la défaite contre le Sporting 2-1, bon, voilà. Liverpool encore qui perdent, c'est pas dramatique non plus. Par contre, contre Bruges, t'as tout pour toi. T'as tout pour gagner. Enfin, tu peux...
Et qui se saborde en peine 10 minutes.
Mais oui. Mais parce qu'en plus, le truc, c'est que contre Lens, ils mettent deux buts très rapidement. Et là, ils font l'effet inverse contre Bruges. Le scénario... Personne ne peut penser à ça. Et moi, au-delà du but qui est marqué par le gardien, tout ça, les responsables, c'est eux, malheureusement. Et en fait, moi, ça me fait plus de la peine pour les supporters qu'autre chose. Enfin, moi, l'Olympique de Marseille, c'est une équipe quand même que j'aime bien, parce que normalement, il y a du jeu, il y a des très bons joueurs, ils étaient censés faire quelque chose, mais en effet, les leaders n'étaient pas au rendez-vous. Il y a un climat qui n'est pas très sain dans ce club. Et en effet, l'instabilité n'aide pas du tout.
Moi, j'allais juste dire que face à Bruges, c'est eux-mêmes les coupables. Parce que tu perds 3-0, et tu fais tourner le ballon, tu peux en prendre un quatrième. Par Bruges, ils sont pas loin de mettre un 4-0. Et le but benfiquiste, en fait, ce qui est fou, c'est qu'une minute avant, le gardien fait un amorti poitrine, il carne la balle pendant une minute, et en vrai, il n'y a même pas faute de Bellingham. Si on regarde bien, il n'y a même pas faute. C'est un coup franc donné un peu cadeau au Benfica en mode « Tenez une dernière chance », et le gardien, il est là, il monte. Ils sont que 5 madrilènes pour défendre 9 benfiquistes, 5. Non, mais c'était une folie. Et c'était même pas le seul match. Même pas fausse. S'il mettait un sixième but à l'étoile, face à l'étoile rouge de Belgrade, même là, ils étaient en dessous.
Mais c'est ça, en fait. Il faut se rendre compte de la folie du truc, de dépendre d'autant de matchs. Tu dépends du Sporting, tu dépends de Paphos, tu dépends de Bodo Glimt et tu dépends
de Benfica.
Puis surtout que pour Trubin, au départ, il n'allait pas au coup franc. C'est Mourinho qui lui dit de monter. Et pareil, quand il prend la balle, c'est parce qu'il pense qu'ils sont qualifiés. Alors que non.
Et tu vois aussi Victor Garcia, le coach des gardiens, il est en mode, mais qu'est-ce que tu fais, frérot? Envoie le ballon. C'était une singerie, ce soir-là.
Ça a fait que le Real...
Ils
ont bien coulé.
Oui.
Du coup, ils se retrouvent aussi en barrage.
Face au Benfica.
Et encore une fois, face au Benfica, effectivement.
Ça, c'est vraiment la joie de cette nouvelle formule. Ouais. C'est...
Faire tourner à 3-0 face à Bruges, alors que tu dépends plus de toi, parce que tu viens de prendre 3 buts. Enfin, c'est...
Puis, en plus, moi, en regardant le match, je me suis dit, bon, à 2-0 avec Greenwood, on sait ce qu'il est capable de faire. Donc, je me suis dit, c'était encore possible.
C'est ce genre de joueur que tu sais qui a un niveau qui doit pouvoir aussi porter le truc, quoi.
Après, là, c'était face à Bruges. Bruges, on peut pas dire que c'est
Mais t'as ta Ligue des Champions en main. Enfin,
Et bah, justement.
Br- Bruges, pas Bruges, c'est...
Ils étaient, je crois, 33e dans les défenses de Ligue des Champions, je crois, en plus, Bruges.
Donc oui, c'était largement prenable,
oui,
quoi.
Oui, oui.
Même Monaco, qui était derrière eux, ils repassent devant, quoi.
D'ailleurs, très bonne place prise par les Monégasques en allant chipper cette qualification et en prenant effectivement le nul contre la Juventus.
En fait, c'est clairement les étoiles qui sont alignées contre eux. T'as tous les résultats qui auraient pu tourner. En fait, c'est vraiment, ils ont joué leur truc à pile ou face. Ils ont lancé une pièce et tombé du mauvais côté. Ils se sont pas laissés d'espoir à jouer eux-mêmes. Quand on regarde l'équipe lors du match, elle tourne très bien. T'as Julio Cash, t'as Taligne, t'as Haggard, t'as Balerdi, tu as Greenwood, t'as Goury, t'as Medina, t'as ton équipe. Tu n'arrives pas à jouer. Il y a des moments où c'est comme ça, où des équipes ne peuvent pas jouer, mais je trouve ça dommage parce que ensuite derrière, tu fais des grosses performances t'élimines Rennes en Coupe de France, tu gagnes contre Lens, mais c'est un peu, pour moi, cette image de l'inconstance. Je l'ignorais tellement avec Marseille. Parce que c'est tellement une équipe qui peut avoir des surprises, qui peut avoir des coups d'éclat, mais qui ne les conclut tellement peu et qui va pas chercher quand il le faut les résultats qu'il faut. Et comme vous l'avez dit, il n'y a pas de cadre sur lequel s'appuyer. À Marseille, je vois pas de leader d'équipe. Et même leur seul leader de vestiaire, c'était De Zerbi, qui maintenait un semblant d'équilibre, il est parti. Et ils ont fait venir des joueurs pour qu'ils jouent sous les ordres de De Zerbi. Ils ont fait venir des joueurs pour qu'ils jouent la Ligue des Champions. Actuellement, il n'y a plus De Zerbi. Actuellement, ils ne jouent plus la Ligue des Champions. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions à la 4e place, c'est-à-dire qu'ils doivent faire des barrages pour l'instant en Ligue 1. Ils sont encore qualifiés en Coupe de France. C'est-à-dire que actuellement c'est qui,
c'est Toulouse.
C'est ils jouent Toulouse en Coupe de France et c'est Noiri, je crois, qui est arrivé. Par exemple,
Timber aussi.
Timber aussi. Les pauvres. Juste c'est les pauvres, quoi.
Puis surtout que là maintenant la saison de Marseille, c'est d'être sur le podium, de finir deuxième de Ligue 1 et gagner la Coupe de France.
Enfin, actuellement,
sinon, la saison elle est ratée, quoi.
C'est s'il y a pas un pour moi, s'il y a pas soit la Coupe de France, soit une place qualificative directe pour la Ligue des Champions, leur saison est ratée. Et même pour moi, là actuellement, la saison, elle est genre leur début de saison est déjà à peu près ratée, quoi. Leur début de saison est ratée pour moi.
En plus, ils ont perdu le trophée des champions aussi contre Paris.
Ouais, ça encore.
Après, ça, c'est en match simple. Tu perds,
c'est ça, c'est compliqué.
Concrètement, tu perds même pas le match, tu perds au tir au but. Voilà.
Non, mais
c'est quand même triste pour ce club.
C'est dommage, et c'était une journée sans pour les Français. Pour moi, le PSG a une place dans le top 8. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font à descendre du top 8. C'était une journée sans. La phrase de Luis Enrique en disant « ça ne me dérange pas qu'on fasse les qualifs », je suis en mode « oui, mais non », parce qu'au moins, ça les maintient en forme et ça les maintient dans le même rythme.
C'est ça, parce que tu sors de la Coupe de France. Donc, tu n'as pas les matchs de Coupe de France ensuite à jouer. Donc, il y a ce truc-là de potentiellement, tu peux jouer les barrages à la place. Enfin, il y a de la place pour jouer d'autres matchs, entre guillemets. C'est que deux matchs.
Tu les maintiens en forme.
En l'occurrence, tu joues contre Monaco. Enfin, c'est ultra dommage de pas faire partie des 8. Et en même temps, avec le recul...
C'est un mal pour un bien.
C'est pas si bête que ça, ce qu'il a dit Luis Enrique.
Oui, c'est un mal pour un bien pour moi.
Ouais, voilà.
Moi, j'ai un peu du mal sur le fait que Luis Enrique ait dit que ça le dérange pas. Faire les barrages,
je pense qu'il a dit ça pour faire bien, mais je pense que ça le saoule de pas être dans le top 8.
Parce que quand déjà t'as fait la Coupe du Monde des clubs cet été et que t'as eu plein de blessés depuis le début de la saison, tu te rajoutes du coup deux matchs en plus encore, même s'ils sont éliminés de la Coupe de France, enfin, j'ai un peu du mal à comprendre.
Oui,
après, c'est de la communication, je sais pas s'il le pense réellement. Mais...
Ouais.
Bah, je pense que c'est surtout qu'il a vu que l'année dernière ça avait bien marché, donc tu sais que c'est pas mort, quoi. C'est possible. Oui.
Comme t'as dit, la superstition.
C'est ça.
Avant.
Ouais, avant l'émission. Que Paris ne gagne que quand ils affrontent un club français en barrage. Puisque l'année dernière, ils ont affronté Brest et ils ont gagné la Ligue des Champions.
Et même, je suis pas sûr que dans l'histoire, depuis que le PSG affronte et sous l'ère Qatari, je suis pas sûr que le PSG ait affronté de clubs français en Ligue des Champions.
Mais tu peux pas.
Bah oui, c'est pour ça, tu pouvais pas. Alors que maintenant, bah, depuis qu'ils peuvent, dès qu'ils en affrontent un, ils gagnent.
Voilà, c'est déjà la fin de ce 4e épisode de Time Out saison 2 avec la participation de Thibaut, Alima, Baptiste, Trévis et présenté par moi-même, Antonin. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
Salut.
Au revoir.
À bientôt.
À très vite.